Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
En novembre 2021, à la suite du suicide de Charlotte G., une jeune magistrate de 29 ans, le journal Le Monde publie une tribune signée par plus de 3000 magistrats en colère. Un mouvement historique de la part d'une profession généralement murée dans son devoir de réserve. Le texte dénonce une approche gestionnaire de la justice et la violence du fonctionnement de cette institution pour les juges comme pour les justiciables. Pour la première fois, les juges s'expriment publiquement sur leurs conditions de travail dégradées. Le 11 décembre 2021, le mouvement prend un tour encore plus étonnant en se déplaçant dans la rue. Car en théorie, les magistrats ne disposent pas du droit de grève, mais cette disposition est contestée au sein du syndicat de la magistrature. Des rassemblements ont donc lieu dans toute la France. En réponse, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, déclare plus tard que les problèmes de moyens sont, depuis sa nomination, en passe d'être réglés. Il dit avoir obtenu lui aussi des budgets historiques et créé 650 postes de magistrats supplémentaires et 750 postes de greffiers, conformément aux promesses de la loi de programmation justice. Au sein de la tribune des 3000, qu'elles ont toutes les deux signée, on retrouve de longs extraits de la lettre de démission de Floriane, une jeune magistrate que nous entendons tout de suite, suivie d'une autre démissionnaire plus expérimentée, Anne-Laure. Un reportage d'Eva Goron et Amélie Berthollet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
La première fois qu'on m'a parlé de souffrance au travail des magistrats, j'avais été reçue par donc quelqu'un qui travaillait à la cour d'appel de Versailles, un juge. Et il m'avait dit « Mais pourquoi vous voulez faire juge? Vous vous rendez pas compte, c'est affreux d'être juge. Ça n'a pas de sens, notre métier. Moi, je convoque des gens, ça fait 10 ans que l'infraction s'est passée. Il y a eu 4 suicides à la cour d'appel de Versailles en 2 ans. » Enfin, il avait essayé vraiment de me dissuader de devenir juge. Et j'avais pas écouté ça, quoi. Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et j'ai été magistrate pendant 1 an et demi. Il n'y a personne dans ma famille qui fait du droit, mais mes parents ont divorcé pendant très longtemps, donc on a été en fait habitués à être un peu dans les tribunaux, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup le juge aux affaires familiales, on a vu beaucoup le juge des enfants. Donc finalement, en fait, quand j'étais petite, je voulais être avocate des enfants. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des études de droit. J'ai beaucoup aimé mes études de droit. Voilà. Alors bien sûr, le prestige de la fonction pour être juge, ça joue. Il y a une élévation sociale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de revanche sur la vie. Et on se dit que naïvement qu'avec une fonction de pouvoir, on va pouvoir avoir un impact sur la société. Et c'est ça qui, finalement, m'a aussi attirée vers ce métier, quoi. Et donc, moi, je suis de la promotion 2017. Je suis entrée à l'école de la magistrature en 2017. L'enseignement qui est tenu est un enseignement de qualité. Je ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'on apprend à être des juges efficaces. On va dire qu'on apprend à être le juge parfait, c'est-à-dire le bon juge, le juge humain, le juge qui rend des jugements motivés. Et en fait, quand on arrive donc en stage, on se rend compte que la réalité est tout autre et qu'il y a un écart abyssal entre ce qu'on nous apprend à être et ce qu'on pourra réellement être. J'ai choisi d'aller en stage à Marseille tout simplement parce que c'est ma ville d'origine et que c'est une juridiction avec un contexte social particulier et aussi une grosse juridiction. Et voilà, en tout cas, mon stage au tout début se passe bien, on va dire. Voilà, je fais donc mon stage au tribunal d'instance, puis ensuite au juge des affaires familiales. Donc c'est un service qui est complètement saturé. Donc en fait, on doit, nous, évoluer dans des audiences surbookées. Vient en fait tout de suite l'apprentissage de savoir gérer le temps, quoi. On va prendre les dossiers, on va dire, à la chaîne. Y a tout un système de... Les auditions, il ne faut pas que ça dure très longtemps. Voilà. Il faut laisser peut-être 10 minutes pour chaque personne. Il y a des techniques hein, pour finalement minimiser le temps de parole des gens, c'est-à-dire leur poser des questions très précises, leur couper la parole quand ils commencent à parler longuement. Donc évidemment, quand on est élève magistrat et qu'à l'école de la magistrature, on ne nous a pas appris à fonctionner comme ça, on nous a quand même appris à écouter les gens, ça peut être un petit peu violent. Alors moi, à Marseille, j'ai compté, à la fin de mon stage, j'ai eu 36 maîtres de stage. Donc chaque juge a une façon de faire différente aussi. Enfin, on a des gens qui sont, on va dire, très humains. Qui sont clairement des exemples. Et on a des gens qui sont complètement désabusés et qui sont sous pression, qui sont sous une pression énorme. Donc, moi, il y a plein de fois en audience, des maîtres de stage qui disaient aux gens que c'était des vauriens, que c'était des imbéciles, enfin, qui utilisaient des termes comme ça en audience. Concrètement, quand j'entendais ça, j'ai halluciné. J'ai jamais, heureusement, reproduit ces termes. Mais en fait, avec ce genre de maître de stage, fallait quand même avoir une attitude très autoritaire. Enfin, et que moi, j'ai jamais eu naturellement, et que j'ai considéré qu'il n'y avait pas besoin d'avoir, puisque notre fonction, de fait, on a une autorité qui surplombe, en tout cas, la personne qu'on a en face de nous. C'est pas la peine d'en rajouter, d'avoir des propos vexants, vexatoires. C'est de ça dont on parle quand on parle de maltraitance envers le justiciable aussi. C'est-à-dire, c'est une question de respecter finalement la personne qu'on peut avoir en face de soi. Mais il faut plaire et donc on va aussi presque parfois se calquer, mimer la façon de présider une audience d'un maître de stage alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec la pratique. J'ai pu avoir moi des situations avec des maîtres de stage compliquées où on nous parlait de manière presque humiliante, où on nous donnait beaucoup trop de travail en fait. Il y a eu une période où j'ai pas eu de week-end pendant plus de 2 mois. Et à la fin, j'étais complètement épuisée. Voilà. C'était moi qui présidais l'audience, c'était moi qui menais des auditions. Et pourtant, j'étais dans un état vraiment d'épuisement. Donc, au milieu de mon année de stage, j'étais vraiment un peu désespérée. Bon, je me disais, en fait, c'est pas pour moi, je pourrais jamais évoluer dans ce milieu. Je cautionne presque rien de ce qui s'y passe. Comment faire ? Enfin, c'est à ce moment-là que je me suis inscrite au syndicat de la magistrature. Et en fait, ça m'a redonné un peu espoir. Je me suis dit, en fait, il y a des juges qui pensent la même chose que moi sur la façon d'exercer, sur comment ça devrait se passer, qui arrivent à dire les dysfonctionnements, qui n'ont pas complètement intériorisé ce mode de fonctionnement dégradé. Je me suis un petit peu persuadée que je verrais bien plus tard, même si, en fait, à la fin de mon stage, je le voyais comme un sacrifice d'exercer, d'être en tant que juge. Alors, à la fin de ce stage d'un an en juridiction, moi, j'avais le choix. Alors, j'étais 210 sur 350. C'était pas fabuleux, mais j'avais le choix entre être ce qu'on appelle juge placé, c'est-à-dire faire des remplacements dans tous les tribunaux qui sont liés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ou alors j'avais l'idée de partir carrément en Outre-mer et de découvrir une autre culture, de découvrir autre chose... Et c'est ce que j'ai choisi de faire finalement. Donc j'ai choisi d'aller exercer à Mayotte en tant que juge d'instance. Donc au départ même de ma prise de poste à Mayotte, j'ai été quasiment tout de suite représentante en fait de la section syndicale du syndicat de la magistrature. Donc je me suis très vite en fait exposée et ça n'a pas plu à ma hiérarchie. Concrètement, ça veut dire que, bon, déjà, cette personne qui représentait ma hiérarchie, elle avait très peu d'égards en ce qui concerne le temps de repos. Ça m'est arrivé de recevoir des appels à 22h le dimanche. Il y a eu aussi de très grosses difficultés à obtenir des congés. J'avais aussi une partie des délégations d'autorité parentale. Et c'est une fonction importante à Mayotte parce que on a beaucoup de mineurs en fait qui arrivent tout seuls sur le territoire. Leurs parents sont aux Comores, donc il faut trouver une autorité parentale si on veut les scolariser, etc. Et donc on m'a relevée de cette fonction. Ben, ma hiérarchie, lors d'une assemblée générale, a clairement dit qu'en fait, ils allaient réduire le nombre de ces audiences, voilà, parce qu'ils ne voulaient pas créer d'appel d'air pour les Comoriens à Mayotte. Donc ça, c'est quelque chose qui est politique. C'est-à-dire que c'est très bien de nous dire l'indépendance de la justice, c'est un principe sacré, on ne peut pas y toucher, etc. Mais en fait, ça ne se vérifie pas dans la réalité. C'est-à-dire que en fait, selon la personne qu'il y a au-dessus de vous, on va vous enlever ces fonctions, donc en fait votre pouvoir à exercer. Finalement, ce qu'on veut, c'est un peu des juges, ce que veut l'institution judiciaire, c'est un peu des juges qui vont préserver l'ordre existant, qui vont un peu se taire. Et c'est pour ça qu'il y a cette culture qui est gouvernée par le devoir de réserve, c'est-à-dire on ne va pas parler, voilà. Globalement, quand on va rendre compte d'une difficulté dans notre office à quelqu'un qui fait partie de notre hiérarchie, la réponse va être c'est votre faute. Vous faites preuve de fragilité. Vous n'avez pas les capacités. Enfin, il faut vous remettre en cause. Il faut travailler plus. Finalement, le management auquel j'ai été confrontée, l'impuissance que j'avais, le fait qu'on ne m'écoute pas, que je n'ai aucune prise sur même moi, mon propre destin. Ça a fait que j'ai eu tout de suite une dégradation de ma santé. Pourtant, je ne suis pas trop quelqu'un en proie à l'anxiété. J'ai commencé à perdre mes cheveux, à être vraiment épuisée psychologiquement. Et puis, je suis partie en vacances en métropole un mois. Et en fait, j'étais en dépression, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mon rôle de juge, de toute façon, je ne sais pas si vraiment j'aide les gens. De toute façon, je fais mon travail de manière dégradée. J'y passe trop de temps dans ma vie. C'est un milieu violent, en fait. Pourquoi est-ce que j'y resterai, quoi ? Pourquoi est-ce que j'y resterai plus longtemps ? Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de m'en aller, quoi, de démissionner totalement, parce que j'avais plus aucun espoir, en fait, d'avoir une action dans cette institution, dans ce milieu. J'avais perdu le sens de mon métier. J'avais perdu vraiment la foi en tous les principes qui peuvent régir la justice. Je crois plus en l'indépendance de la justice. Pour moi, c'est un leurre. Et donc j'étais en arrêt maladie, j'étais à Marseille, j'étais donc chez moi, j'avais pris cette décision de démissionner et c'est là que j'ai écrit cette lettre où en fait j'écris tout ce que j'ai sur le cœur, c'est-à-dire quelles sont réellement les raisons qui m'ont poussé donc à démissionner. Et en fait c'est tout ce que j'avais pu dire, tout ce qu'on ne pouvait pas dire. Quand on était en exercice dans la magistrature, entre nous, aux gens qui font partie de la hiérarchie, tout ça, je l'ai couché sur le papier. L'été dernier, j'ai toujours des amis qui sont dans la magistrature et il y en a certains qui m'ont dit mais il y a une fille de ta promotion qui s'est suicidée, elle s'appelle Charlotte. Et finalement, après, j'ai reçu un message d'une collègue à moi, donc de ma promotion aussi, qui me demande si elles peuvent citer une partie de ma lettre dans une tribune qu'elles ont fait suite au suicide de Charlotte pour pas laisser sa lettre morte, pour dire que c'est pas un cas isolé, que ma démission à moi elle est pas un cas isolé non plus, que en fait la justice va mal, qu'il faut le dire à tout le monde, etc. Enfin voilà, j'ai évidemment accepté. Très vite, au bout de 24 heures, il y avait 3000 signatures, ce qui était vraiment c'est un étonnement énorme, c'est une surprise énorme, mais pour tout le monde. J'espère que ça va continuer, j'espère que ça va déboucher sur des choses concrètes. J'ai peu d'espoir, mais c'est déjà un énorme pas qui a été fait, c'est inédit, et puis Je suis très contente, en fait, finalement, quelque part, ce que j'avais pas pu faire de l'intérieur et ce que je pressentais ne pas pouvoir faire de l'intérieur, j'ai peut-être réussi à le faire un petit peu en partant. Voilà.
Transculture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Anne-Laure, j'ai 42 ans. J'ai été magistrate de 2003 à 2021, quand j'ai pris la décision de démissionner. Donc j'ai pris mon premier poste en 2005 j'ai exercé différentes fonctions pendant plusieurs années. Et puis je suis arrivée comme juge des enfants à Saint-Brieuc en septembre 2012. Mon quotidien comme juge des enfants, c'est arriver le matin un petit peu avant 9h pour prendre les rendez-vous de la journée qui vont s'étaler de 9h à peu près 15h. Donc on reçoit plusieurs familles par rapport à des situations d'enfants en danger dont on se demande s'ils ne sont pas en danger. Donc ça veut dire enchaîner des situations parfois très difficiles. On va parler de violences conjugales, on va parler de maltraitance infantile, on parle d'ados qui ont des crises suicidaires, d'addiction, on parle, enfin voilà, donc on aborde évidemment tout un panel de situations qui en général sont pas très gaies. Ensuite, on doit traiter les urgences, le courrier, préparer les dossiers du lendemain et puis rédiger ses décisions. Voilà à peu près le quotidien. Et donc quand on rentre chez soi, on peut être préoccupé, en fait, en particulier par une situation qu'on a traitée dans la journée, un entretien qui s'est mal déroulé, parce que c'est aussi beaucoup de larmes hein, dans le bureau d'un juge des enfants, parfois des portes qui claquent, de parents qui sont pas contents et qui s'en vont, qui peuvent avoir le verbe haut, d'enfants qui vont très très mal. J'ai eu, moi, un incident assez grave dans mon bureau, puisqu'il y a eu un père qui a fait une tentative d'homicide sur une éducatrice dans mon bureau, qui s'est soldée par une intervention immédiate de la police. J'avais été moi-même menacée de mort dans la scène. Donc évidemment, c'est très traumatisant. Enfin voilà, donc on peut être préoccupé par une situation, on peut être frustré par rapport à un manque de moyens qui fait qu'une situation n'a pas été prise en charge comme elle devrait l'être. Par exemple, chose qui arrive très régulièrement et de plus en plus, on avait ordonné le placement d'un enfant et le placement n'a jamais été mis en place parce qu'il n'y a pas de famille d'accueil, parce qu'il n'y a pas de foyer, etc. Donc en fait, on passe des coups de fil, on essaye de comprendre. On arrive au bout d'une journée lambda, en général, avec des situations qui nous restent dans la tête. Le fait de rentrer le soir à 20h... d'y consacrer une partie de mes week-ends. Ça peut déjà être un petit peu l'objet de, pas de tension dans le couple, mais en tout cas d'incompréhension de la part de mon conjoint. Mais c'est pas trop compliqué à gérer. Ensuite, à partir du moment où on a eu notre fils, évidemment, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que si on a des velléités d'être chez soi à une heure raisonnable et de s'occuper de son enfant le week-end, eh ben, très rapidement, on se rend compte que c'est difficilement compatible avec la quantité de travail qu'on produisait auparavant. Et puis, à la maison, la situation devenait compliquée puisque mon fils commençait à développer des troubles du comportement sur lesquels, en fait, on n'avait pas d'idée. Sur l'origine de ces troubles. Et on était avec mon conjoint dans un questionnement de savoir si, en fait, on n'était pas simplement des parents qui s'y prenaient mal. Et en ce qui me concerne, évidemment, une culpabilité sur le fait que peut-être je n'étais pas assez présente auprès de mon fils, qui pouvait avoir des attitudes assez violentes et même de rejet vis-à-vis de moi. Donc évidemment, quand on passe sa journée à s'occuper des enfants des autres et à lire notamment des rapports d'expertise psychologique qui expliquent les troubles d'un enfant, les crises de violence, la difficulté de parents pour répondre à leurs besoins, alors que soi-même on est dans ce type d'interrogation, oui, c'est compliqué. Et donc j'étais dans les tâtonnements permanents pour pouvoir être à la fois suffisamment présente à la maison, à la fois pouvoir continuer à produire une qualité de travail dans des délais qui soient bons et à ne plus y parvenir. Et donc c'est ce qui a abouti à, dans un premier temps, une décision de mise en disponibilité. Donc je reprends en 2018, à temps partiel, puisque entre-temps mon fils a eu une notification de statut de handicap. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il était temps de revenir à temps plein, ou en tout cas partiel, à 70 ou 80% en juridiction. Et donc c'est là que j'ai commencé à me projeter et à me demander ce que ça pouvait donner de reprendre en fait ce rythme. Et puis vers février-mars, je n'ai pas ma mutation à Rennes. Et donc là, en plus de devoir me projeter dans une reprise en juridiction presque à temps plein, je dois me projeter dans une reprise en juridiction à 1h30 de route de chez moi, au minimum. Et donc, en fait, ça monte au cerveau, mais en tout cas, ça déclenche, oui, une angoisse assez massive, en fait. Je me rends compte que non, je ne vais pas tenir. Que, évidemment, que ça va être l'explosion en vol au bout d'un mois, deux mois. Ou alors que si je tiens, c'est mon fils qui explose, ou en tout cas, la situation familiale qui en pâtit. Et donc ça, c'est pas envisageable pour moi. Mais je suis retournée prendre une audience à la cour. Et là, en fait, je mesure la souffrance que c'est de s'envoyer comme ça une douzaine de dossiers, de situations très très difficiles avec des parents qui contestent, des placements d'enfants, avec des histoires d'inceste, de violence, etc. Donc, en fait, ce qui est de s'immerger dans la préparation de ces dossiers, de prendre l'audience, de rédiger les jugements, et je mesure en fait que c'est très dur. Et là, ça devient impossible, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai fait pendant des mois et des années, d'un seul coup, n'est plus possible pour moi. Je sais que je ne suis pas la seule à me poser ce type de questions, à savoir comment cumuler cette vie professionnelle avec une vie personnelle, comment se sortir de la frustration et de l'impuissance par rapport au manque de moyens qu'on a au quotidien, que c'est une préoccupation qui monte chez les collègues, que de fait on voit les arrêts maladie, c'est-à-dire qu'avant même d'être moi-même en arrêt, je vois qu'il y en a beaucoup et de plus en plus dans les juridictions. Mais ça reste, entre collègues en juridiction, un sujet qui est difficile à aborder. Donc, du coup, je suis en arrêt. Évidemment, je ne me dis pas d'emblée, je vais démissionner et ça va régler les choses et tout ça se fait sereinement. En fait, c'est beaucoup d'angoisse pendant plusieurs jours et je me dis, je vais démissionner, je n'ai pas vraiment le choix. Enfin, c'est juste la décision cohérente à prendre. Mais malgré tout, quand j'ai pris ma décision de démissionner et quand je l'ai annoncée, je me sentais un petit peu mal, avec le sentiment de un peu abandonner quoi. Mes camarades. C'était vraiment, je quitte le bateau qui est en train de couler. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, c'était presque un peu de la colère, ouais, de dire je pars. Non pas parce que c'est pas un métier qui m'intéresse et même que je pense avoir exercé pas trop mal, mais parce que c'est plus possible en fait d'exercer ce travail
en ayant le sentiment de faire quelque chose, on va dire au quotidien, qui apporte, alors c'est bizarre de le formuler comme ça, mais qui apporte quelque chose à la société. Si je fais le bilan de la violence qu'on inflige, ce qu'on fait mal et ce qu'on fait bien, enfin c'est-à-dire qui apporte, oui, qui apporte des solutions pour des jeunes ou des enfants, je ne suis plus certaine que la balance penche du côté positif. Et donc voilà la raison pour laquelle je pars, et aussi parce que ça m'a atteint. J'annonce officiellement ma démission en juillet, l'effectif en novembre. Et novembre, c'est aussi le mois où sort la tribune dite « Tribune des 3000 », qui part du suicide de Charlotte, mais qui surtout s'apesantit sur ces questions de souffrance éthique au travail, d'impossibilité de rendre une justice humaine. Donc j'apprends le suicide de cette jeune collègue. Et je sais aussi qu'évidemment, les réactions qui ont eu lieu dans la hiérarchie judiciaire, ou en tout cas, ce qui va nous être avancé, c'est, comme d'habitude, que c'est compliqué de rattacher ce suicide à ses conditions de travail. On va probablement nous mettre en avant des fragilités personnelles, etc. Et évidemment, ça me renvoie, moi, à ma propre situation, puisque ce que j'ai vécu, c'est l'impossibilité de démêler le personnel du professionnel. Donc je me sens aussi concernée par cette histoire à ce titre-là, et puis parce que moi-même j'ai été en arrêt de travail et dans un état de santé mentale très très bas à un moment. Et donc évidemment, j'assiste à Paris à la manifestation qui a lieu au mois de décembre du monde judiciaire. Ça n'entame pas ma conviction que j'ai bien fait de partir, parce que je n'ai pas non plus de naïveté sur le fait que ça va déboucher rapidement sur une évolution drastique des conditions d'exercice de ce métier. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et je ne suis pas très, même très optimiste pour la suite.
Lorsque vous adressez, c'est un exemple, des conclusions ou des écritures à la juridiction, avant l'audience, la juridiction, le greffe ne peut même pas les imprimer car il n'y a pas assez de papier. Donc ce sont les magistrats eux-mêmes qui impriment chez eux, avec leurs propres moyens. Donc c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. C'est cette justice, cette paupérisation de la justice, et sauver, parce que je crois qu'on en est là actuellement, sauver cette justice dans l'intérêt, du seul intérêt du justiciable.
C'était Les juges démissionnent, un reportage d'Eva Goron et Amélie Berthollet, réalisé par Yaël Mandelbaum et mixé par Fabien Capel. Merci à Floriane Chambert, Anne-Laure Maduro et Judith Allenbach. C'est Jeanne Coppel, attachée de production des Pieds sur Terre, Justine Calais, notre stagiaire. Et nous avons avec nous cette semaine Azilise Pau de Serre également.